magazine de l'environnement sur RFI.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour, savez-vous que le fromage la mozzarella serait plus rentable pour la mafia italienne que la cocaïne? En Italie, deux phénomènes ont pris une ampleur incroyable ces dernières années, l'agro-mafia et l'éco-mafia. Ils concernent différentes activités économiques infiltrées par les pouvoirs mafieux. L'agro-mafia, c'est la contrefaçon des aliments qui font la réputation alimentaire mondiale de l'Italie. La mozzarella donc, mais aussi les sauces tomates et les vins. La mafia s'est emparée de toute la chaîne de production. Ce business lui rapporte des dizaines de milliards d'euros par an, mais il a coulé de nombreux producteurs honnêtes, garants du savoir-faire traditionnel qu'évoque le Made in Italy. Quant à l'écomafia, c'est la gestion illégale des déchets industriels qui sont soit enfouis, soit brûlés, au mépris des risques sanitaires et environnementaux. Et là encore, on parle de dizaines de milliards d'euros de bénéfices. Alors comment en est-on arrivé là? Comment s'organise la lutte contre ce système mafieux? Pour le savoir, Igor Strauss et Riccardo Antoniucci se sont rendus dans le sud-ouest de l'Italie, direction Naples et sa région, la Campanie.
Questa è la chiesa di San Nicola, a Casal di Principe. È qui che la mattina del 19 marzo 1994 viene ucciso il parroco, Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe.
Le 19 mars 1994, à Casal di Principe, un petit village de la région de Caserte en Italie, le prêtre Don Giuseppe Diana est assassiné dans son église par deux membres de la Camorra, la mafia napolitaine.
Don Peppino era morto laggiù.
Pour les Italiens, la mort de celui qu'on appelle alors Don Pepe est un choc terrible. Pour en saisir l'importance, nous partons dans la région de Caserte, justement, au nord de Naples, symbole du pouvoir de la Camorra. Direction Castelvolturno, le village qui compte le plus grand nombre de biens confisqués à la mafia. Perdu au milieu des champs, sur une ancienne terre mafieuse, l'association Libera a créé une coopérative sociale, son nom, la terre de Don Pepe Diana. Massimo Rocco, le responsable de la coopérative.
Nous nous appelons les terres de Don Pepe Diana. Non perché la memoria di questo sacerdote.
Ci siamo choisi d'intituler nos terres à Don Peppe Diana, ce prêtre tué par la Camorra à Casal di Principe le 19 mars 1994. Ce n'est pas parce que sa mort serait plus importante que la mort des autres victimes des mafias locales, mais c'est parce que la date où il a été tué représente pour nous le début d'un processus de rachat de ce territoire que nous avons ensuite entamé, que nous voulons mener à bien.
Fu talmente eclatante, talmente violento.
L'impact de cet assassinat fu tellement important que la population, alors jusqu'à ce moment-là, avait couvert de fait l'activité mafieuse par le silence et l'omerta. La population a décidé de réagir et a commencé de manière d'abord timide, mais ensuite de plus en plus importante, à participer aux manifestations et à vouloir tourner la page et en terminer, en finir avec ce grand pouvoir mafieux du territoire. Il faut considérer que ce n'est qu'en 1982 qu'une loi pour la prison spéciale pour les mafieux est approuvée en Italie et qu'on crée à côté la possibilité de confisquer les biens des mafieux et d'en saisir les patrimoines. Mais il faudrait attendre encore jusqu'à 1996 avec la loi proposée par Libera pour commencer de réutiliser, de récupérer les biens et les terres saisis aux mafias.
Alors justement, est-ce que vous avez une idée de ce que représentait le patrimoine agricole de la mafia avant cette loi, avant 1996, et aujourd'hui, combien d'hectares de ces terres ont pu être récupérés par l'État et par la société civile?
Numeri précisi non ve li so dire a memoria, sinceramente.
Alors, je ne connais pas les chiffres exacts. Ce qui est sûr, c'est qu'après 1996, on a pu faire un bond énorme par rapport à la situation précédente. Mais il faut aussi reconnaître que, bien que la plupart des biens confisqués soient aujourd'hui passés dans la propriété publique, l'assignation et la gestion de ces biens restent encore compliquées. Il y a encore des problèmes dans le développement de ce processus.
Je prends l'exemple
de ce territoire de Castelvolturno. Ici, grâce à l'activité de la mairie, les enquêtes nous disent que nous pouvons compter entre 170 et 180 biens confisqués à la mafia, alors qu'on n'en a assigné que 8 à l'heure actuelle.
Aujourd'hui, la coopérative sociale Don Pepe Diana produit de la mozzarella biologique sous le label Libera Terra, qui permet de reconnaître les produits issus des terres confisquées à la mafia.
Donc là, on met les petits chaussons, c'est ça, pour rentrer dans la production. Voilà. C'est la production de lait ici.
C'est la production, c'est le traitement du lait et la production de mozzarella, ricotta, c'est ce qu'on appelle en italien caseificio.
Ah oui, effectivement, toutes les boules de mozzarella.
On réalise le format de mozzarella à 125 grammes, donc de toutes petites mozzarella.
Ah, c'est une grande entreprise, c'est moderne. Hein. C'est quoi la grande différence entre une mozzarella bio et une non bio?
Per quanto riguarda i dettagli del processo di produzione, non c'è.
En ce qui concerne le processus de production, il n'y a aucune différence. La seule différence, la différence majeure, est justement dans la matière première, c'est-à-dire dans le lait qu'on reçoit. Nous avons notamment deux élevages qui produisent du lait bio, qui sont nos fournisseurs et qui respectent des lois précises et des formes précises d'élevage qui est plus sauvage et qui permet d'avoir cette certification bio.
Vous produisez donc, on a fait un petit tour de l'usine de fabrication de mozzarella et de mozzarella biologique. Comment est né ce projet? Pourquoi la mozzarella? Et est-ce que c'est aussi un pied de nez finalement à la mafia avec le fameux scandale de la mozzarella contaminée en raison des pollutions créées par la mafia?
Non è un caso che si punta alla mozzarella come core business per la nostra.
Oui, ce n'est pas au hasard si nous avons choisi de faire de la mozzarella notre core business ici. Nous sommes la première entreprise qui récupère une terre confisquée à la mafia, mais nous sommes aussi la première entreprise qui produit de mozzarella à partir d'une terre qui appartenait à la mafia, justement. Et ça sur le territoire national, à l'échelle nationale. Le secteur de la production de dérivés du lait et de la mozzarella, en particulier de bufflone, a toujours été dans cette région collatéral à l'activité mafieuse. Il y a eu plusieurs cas d'entreprises qui étaient de la propriété justement de clans mafieux et gérées de manière criminelle. C'est pour ça que nous avons voulu redonner de la valeur à cette production. Et donc, oui, effectivement, je dirais que c'est un pied né qu'on a essayé d'avoir au niveau symbolique de ce que sera représentée la production de mozzarella dans ce territoire. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas s'imaginer que sur une terre de la propriété de la mafia, on pouvait produire une mozzarella biologique avec une marque de dénomination d'origine contrôlée, faite de manière transparente.
Merci, grazie.
Grazie a voi.
Tarantella facendo c'è conto non vale più niente passato a pensare. Quando non ci stanno tram, la carrozza sempre pronta nata l'angolo sta già.
Ciao, grazie.
Caccio in sto crispo giallo, niente da vesta chiuccare. Con la rosa in te capilla, sai che mi di ancora a me.
Selon les chiffres officiels, plus de 2500 biens ont été confisqués à la mafia dans la seule région de Campanie. Parmi eux, 150 maisons, 700 appartements, 350 garages, 120 magasins ou encore 473 terrains agricoles. Et la liste est encore longue. Grâce à ces terrains, la Camorra, la mafia napolitaine, ne s'est pas contentée de faire main basse sur la production de mozzarella en Campanie. Elle a infiltré tous les domaines des différents secteurs agricoles, la production, la transformation, le transport, transport et même la distribution. En Italie, on appelle cela l'agromafia, une activité illégale qui rapporte des milliards d'euros à la criminalité organisée, selon Coldiretti, le principal syndicat agricole italien. Domenico Sabatino, responsable des jeunes agriculteurs de la région de Naples, de Coldiretti.
Secondo me il punto chiave di questo discorso è la contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.
L'effet le plus évident c'est la contrefaçon des produits alimentaires, des produits agroalimentaires de DOC italienne. C'est là-bas que l'activité mafieuse est plus forte. Et imaginez que le chiffre d'affaires de la contrefaçon des produits alimentaires italiens a un chiffre d'affaires de 60 milliards par an. Et ces 60 milliards par an sont enlevés au profit des agriculteurs qui, par contre, essayent de développer des modèles de respect de la terre, de respect du bio et qui cherchent à produire des produits sains.
È terribile, sì, purtroppo è un sono soldi che vengono torti a
le conséquences sont très fortes effectivement les dommages sont exagérés pour nos agriculteurs c'est une forme de voler des ressources à nos agriculteurs. C'est pour cela que notre syndicat la Coldiretti a lancé une pétition pour le stop aux faux produits qui se base sur la mise obligatoire d'étiquettes d'origine qui donc puisse démontrer de l'origine de tous les produits et de ses composantes. Nous prenons pour la traçabilité complète des produits agricoles, de la terre jusqu'à la consommation finale. Et dans notre pétition, nous essayons aussi de mettre en évidence l'importance des marchés des producteurs directs, parce que cela, ça permet d'éviter de devoir avoir recours à tout système logistique donc, où la mafia se niche parfois.
Quand vous parlez de contrefaçon, quels sont les produits contrefaits? D'où viennent les aliments utilisés et comment ça se passe finalement?
Alors, la contraffazione avviene praticamente usando materie prime.
La contraffaçon de produits alimentaires se base sur l'emploi des matières premières d'abord qui viennent pas de ce territoire, qui sont souvent étrangères. Un exemple est la sauce tomate, c'est la sauce tomate qui vient de Chine. Donc ce qui se passe c'est que on importe une sauce tomate chinoise ici, puis on met en place des processus de transformation pour faire en sorte que pour la loi ça devient un produit italien. Mais il ne s'agit pas de tomates italiennes, c'est des tomates chinoises retransformées. Ou bien on a eu d'autres exemples, par exemple des mozzarella produites à partir du lait en poudre.
Mais alors, vous disiez au début de cet entretien que la bonne nouvelle, c'était que ces pratiques n'avaient pas augmenté, que les chiffres étaient stables par rapport aux années précédentes. On parle de sommes considérables. Comment lutter efficacement contre un tel apport d'argent ?
Allora, per contrastare questo fenomeno, ecco qua, ritorno poi al discorso della petizione. È importante.
Pour nous, l'essentiel, c'est de travailler sur la traçabilité totale des origines des produits alimentaires. Et après, il y a tout un travail à faire en justice. Ce sont les magistrats qui devront travailler pour contraster les phénomènes criminels, saisir les terres, saisir les produits qui sont produits de façon criminelle. C'est un parcours lent, c'est un parcours qui sera progressif dans le temps. Comme dans tous les cas de lutte à la mafia. Je pense que ça va améliorer grâce au travail conjoint des magistrats et des gens comme nous, comme notre syndicat, qui travaillent pour justement augmenter les revenus des producteurs de base et pour qu'on produise des produits de plus en plus sains pour le consommateur dans le respect des consommateurs.
Merci, grazie.
Grazie a te.
Grazie mille.
Dans la sinistre zone industrielle de Caserte, nous rencontrons Antonio Pizzani, journaliste à l'Agence nationale de presse et spécialiste de la mafia napolitaine.
Il problema è che dalle nostre parti la camorra, come dicevo, controlla completamente il ciclo dei rifiuti.
La camorra aujourd'hui contrôle, je dirais, à 100% tout le cycle qui va de la production jusqu'au consommateur. Et ce qu'on appelle ici dans cette ère l'or blanc, les enquêtes aussi des magistrats l'ont appelé comme ça, c'est-à-dire la mozzarella de Bufflone. Elle a un cycle de marchandisation qui est aujourd'hui complètement dans les mains des casalesi, c'est-à-dire de la camorra qui utilise la violence pour imposer leurs produits, produire sur leur terre, au supermarché, au restaurant, en polluant ainsi le milieu commercial de ces terres.
ma non è solo la mozzarella di bufala, la camorra si la camorra emerso.
La mozzarella, ce n'est pas le seul marché qui est sous le contrôle actuellement des intérêts mafieux. Nous avons eu des enquêtes qui concernaient par exemple la production et la marchandisation du sucre. Nous avons eu des enquêtes qui concernaient la logistique, les transports des biens agricoles, mais aussi les marchés de fruits et légumes par exemple.
La collusione politica tra politica e camorra è qualcosa di e qui forse possiamo dire
la collusion entre politique et mafia elle est très forte. Ce qu'on trouve ici c'est que la politique et la mafia vont main dans la main trop souvent. Auparavant, le problème était de défaire la partie militaire des mafias. Aujourd'hui, le vrai défi c'est de faire cette zone grise faite d'intérêts, faite de rapports entre fonctionnaires et criminels qui empoisonne notre société.
Anima vola con me.
Selon le syndicat Coldiretti, en 2018, il y aurait eu près de 400 alertes alimentaires en Italie à cause de l'agromafia, de quoi mettre à mal l'image du Made in Italy dans le reste du monde. Mais ce qui inquiète le plus les défenseurs d'une agriculture sociale, ce sont les méthodes utilisées par la Camorra. Violence, intimidation, non-respect des travailleurs et de la terre.
Nous avons reçu des menaces, surtout au départ. Dans le fond que nous avons sur les terres, un jour nous avons trouvé des trous excavés qui simulaient des tombeaux en fait. Et quelqu'un d'entre nous a pissé dedans et puis il a pris une photo pendant qu'il le faisait. Et les gens de l'association sont allés coller la photo après à côté de la maison du boss qui avait mandaté ces actes. Puis nous avons eu une répercussion de tout ça parce que nous avons voulu le tracteur, mais nous l'avons racheté. Et aujourd'hui, heureusement, nous n'en avons plus de menaces, nous n'en subissons plus. C'est parce que aussi la famille mafieuse qui gérait le territoire a été enfermé et arrêté par la police.
Juste Ricardo, où est-ce qu'on est là en ce moment?
Nous sommes dans le quartier de Scampia actuellement. Visiter une association qui s'appelle Resistenza Anticamorra, qui a repris une école qui était autrefois un bien géré par la Camorra. Et je vous présente
Michele Fiorillo.
Michele Fiorillo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Come ti dicevo prima, siamo in un'ex scuola, un professionale.
On est ici, comme je te le disais, dans une école professionnelle qui avait été fermée et que la Camorra avait repris et utilisée comme un dépôt d'armes, en fait. Ici, ce quartier, c'était la base du trafic de drogue la plus grosse d'Europe. Aujourd'hui, heureusement, ce quartier de Scampia, c'est plus le quartier qui était il y a 20 ans, grâce à un travail des forces de l'ordre, surtout, mais aussi un travail des citoyennetés, ce quartier a commencé à se racheter de son histoire, de son passé mafieux. Et cette école en est un symbole parce que ici où il y avait un dépôt d'armes, aujourd'hui il y a le siège d'une association qui essaye de fournir un développement personnel, etc.
Il nostro obiettivo di condividere il nostro modello culturale.
Par ailleurs, nous gérons un terrain à côté de cette école, aux alentours de Scampia. C'est une terre qui a été séquestrée à la Camorra en 1997 et que nous avons repris en 2012, qui nous a été assignée de la part de l'État. Là-bas, nous faisons surtout du vin. Nous avons des vignes, 1,8 hectare d'extension, et où nous cherchons à amener des projets d'agriculture sociale.
quindi il nostro obiettivo è di andare sempre più avanti e creare.
Nous cherchons surtout dans nos terrains à créer des opportunités de travail pour les gens, des formes de travail qui soient dignes et qui soient respectueuses des valeurs et des droits des travailleurs de la terre. Cela en opposition avec le modèle de l'embrigadement du caporalato qui est très fort ici.
Grazie.
Grazie a voi.
Merci beaucoup. On peut voir les vignes?
Si.
C'est pas ici, hein, c'est un peu loin. Un peu lontano.
Non, 4 km.
Ah, c'est à 4 km ici.
On prend cette voiture là, nous?
Ouais.
On quitte le centre anti-mafia. C'est vraiment un autre monde. Hein.
C'est vraiment un autre monde.
Quand je disais qu'on était dans le film ou la série Gomorra, c'est ça.
Oui, un paysage sombre, gris.
Toi, l'habitant de Rome, le Romain.
L'habitant de Rome.
Qu'est-ce que ça te fait de venir ici?
Je crois que, ouais, y a une tristesse de ces lieux qu'on voit aussi sur le visage des gens. On se demande qui a eu l'idée de bâtir des bâtiments si moches que ça, par exemple. No Gomorra, écrit sur un...
Ouais, sur les poubelles. Il y a marqué Scampia, non solo Gomorra. Scampia n'est pas seulement Gomorra.
Formare cittadini liberi e consapevoli. Il faut former des gens libres et conscients.
Tout ce qu'on voit là, tout le terrain, tout ça a été confisqué à la mafia, à la Camorra.
Si, adesso ti faccio vedere altro, però. Tu non hai visto ancora niente.
T'as pas encore tout vu.
Mais par exemple, là, ils faisaient quoi ici, la Camorra, avant?
Agriculture.
Agriculture, de l'agriculture.
Ah, c'est beau, hein, c'est grand, hein, des vignes à perte de vue, donc des agrumes, des légumes. Vous, maintenant que vous faites du vin biologique, est-ce que vous bénéficiez d'aide de la politique agricole commune pour vous aider ou pas?
Abbiamo provato a prendere dei finanziamenti europei attraverso la regione, ma...
Alors nous, la PAC, on a tenté de l'avoir, on a postulé à travers la région, on a fait les démarches, mais il y a eu trop de problèmes bureaucratiques, on n'a jamais réussi à l'avoir, et pourtant on en aurait besoin. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un barrage au niveau bureaucratique, un peu un manque de collaboration de la part des institutions, et je parle des institutions plutôt qui sont sur le côté de la bureaucratie qui gère les fonds. Je ne parle pas du maire, hein, du maire de Naples qui nous a toujours supportés. Et après, notre président, Ciro, il n'a jamais voulu demander de faveur politique. Et moi, je suis d'accord avec lui. Donc, on a tout fait, on a toujours tout fait avec nos forces, nos propres forces, et sans jamais demander rien à la politique locale.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes en Campanie, la région de Naples, en Italie, pour parler des conséquences sociales et environnementales des activités de la mafia locale, la Camorra. Après la criminalité dans l'agroalimentaire, plus connue sous le terme d'agromafia, nos reporters Igor Strauss et Riccardo Antoniucci se sont intéressés à un autre scandale révélé il y a une vingtaine d'années dans cette région, le scandale des déchets enfouis ou brûlés illégalement par la mafia, qu'on appelle en Italie l'éco-mafia. Un phénomène si répandu que la région entre Naples et Caserte a été rebaptisée la Terre de Feu. Rappel de l'origine d'une autre catastrophe sociale et environnementale avec Vincenzo Tosti, activiste de l'association Stop Biocidio.
In pratica, quando è che
alors, quand est-ce qu'on a commencé de se rendre compte des problèmes de nos territoires? Bon, par exemple, je fais l'exemple de mon expérience personnelle. J'avais lancé un groupe avec des amis à la moitié des années 90 où on essayait de recenser les palais anciens qui sont présentes sur le territoire et qui, dans des cas, remontent même au XVIIIe siècle. Et quand on partait à la recherche de ces palais, on découvrait les ordures à chaque fois dans les campagnes et on voyait les paysans qui nous demandaient de l'aide. Alors nous ignorions en fait cette pollution, cet enfouissement des déchets. Et donc les gens ont commencé à se rendre compte de tout ça. Disons à partir d'un événement particulier qui a eu le tremblement de terre des années 80.
Perché diamo più o meno una data all'inizio dello scempio?
C'est à ces années-là que, pour la reconstruction, un système économique se met en place qui relie les entrepreneurs et les formes de mafia et des camorra qui souvent possédaient ou avaient des relations avec les entreprises de construction. Ce qu'on commence à faire, c'est d'excaver le territoire, de créer des carrières pour avoir les matériaux pour reconstruire les villages et les parties de la ville détruites par le tremblement de terre. Et après, l'exigence se crée de remplir ces carrières. Et on pense bien de le faire en enfouillant des déchets à l'intérieur. Et la camorra, dans tout ça, a été le bras de cette opération. Mais si nous regardons bien, où sont les intérêts? Qui était vraiment intéressé à enfouir les déchets et à se libérer de ce taux de déchets industriels qui était produit? Bah, c'était les industriels, justement, c'était les entrepreneurs.
Et questo non è che ce lo siamo inventati, lo dicono le inchieste.
Et tout ça, c'est dans les enquêtes. Je fais un exemple. Un repenti de mafia de Camorra, Nunzio Perrella, interrogé par les juges à l'époque, et en devant répondre des origines de toutes les économies et les richesses de la Camorra, il répondit: Monsieur le magistrat, le vrai business ici, c'est pas la coke, c'est pas la drogue, mais ce sont les déchets. En fait, les enquêtes ont fait des liens entre, par exemple, les propriétaires de déchetteries mafieux et des personnages de la maçonnerie italienne liés aux groupes industriels comme Licio Gelli.
Quindi, ecco, si parte da questo, poi ovviamente riempite le cave.
Une fois les carrières remplies, on a dû continuer ce business, évidemment. Mais pour couvrir le fait que ces déchets venaient souvent des industries du nord de l'Italie, on a commencé, avec l'aide des hommes politiques qui gouvernaient le territoire, de créer des fausses émergences, des émergences qui concernaient les ordures urbaines, en disant qu'on n'avait pas la manière de les gérer et qu'il fallait construire de nouvelles déchetteries pour les intérêts, pour les mettre. En réalité, ce qu'on faisait, c'est que dans ces déchetteries, et en l'occurrence aussi sous la terre, on enfouillait les déchets industriels qui venaient du nord aussi. On brouillait les pistes et on faisait en sorte que les gens ne se rendent pas compte du fait qu'on gérait un véritable marché national des déchets industriels. On a rendu légal un certain nombre de pratiques qui étaient hyper polluantes en disant que c'était l'émergence et qu'il fallait trouver des solutions rapides à tout ça.
Poi c'è un altro aspetto che adesso noi dobbiamo comunque, diciamo, parlarne.
Maintenant, il faut aborder
un autre aspect. Parler de la terre de feu in Campania,
on entend parler de feu partout quand on parle de terre de feu, justement, c'est dans la définition même. Alors, qu'est-ce que c'est que ce feu toxique?
Arriva la commessa a queste fabbrichette qui, una parte viene ovviamente prodotta
in regime. En fait, ces déchets qui viennent de l'industrie locale du tissu, ce sont des déchets qui relèvent donc de la partie de ces industries qui travaillent au black, qui travaillent sans payer des impôts. Alors quand une petite entreprise de vêtements, par exemple, qui produit des vêtements ou des tissus industriels, travaille sans payer des impôts, les déchets qu'elle produit ne sont pas déclarés, donc ils doivent disparaître. Alors la manière la meilleure pour les faire disparaître, c'est de les enflammer, de leur mettre le feu. Et le même mécanisme se produit aussi dans l'industrie du bâtiment. Toute l'industrie du bâtiment de cette zone qui travaille sans être en règle, sans payer ses impôts, donc dans un régime d'élusion fiscale, se défait de ses déchets en leur mettant le feu pour faire en sorte qu'ils disparaissent des papiers.
Grazie.
Grazie mille.
Ok. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Selon l'association environnementale italienne Legambiente, qui a révélé le scandale et donné son nom à l'écomafia, le trafic illégal de déchets aurait rapporté plus de 14 milliards d'euros à la Camorra en 2017, soit une croissance de près de 10% par rapport à 2016. Alors quelles ont été les conséquences sociales et environnementales? Michel Buonomo, ancien président de l'association Legambiente dans la région de Naples.
Les enquêtes menées durant des années ont montré que la zone intéressée par ces activités illégales était beaucoup plus restreinte que ce que l'on croyait à l'origine.
la partie la plus à risque, qui subit le plus de risques, est celle qui a été intéressée par les enterrements de déchets, justement, plutôt que celle intéressée par les feux qui avaient des effets moins importants. Alors, les dommages ont été graves, de la pollution et des activités illégales, mais on a su réagir, démontrer que ce caractère n'avait qu'une dimension localisée, très localisée, que ça ne couvrait pas la totalité de notre région. Et cette forte réaction a fait en sorte que notre taux d'exportation à l'étranger a pu croître, a pu s'étendre dans le monde entier. Et on exporte aujourd'hui des produits qui sont tout à fait sains et tout à fait sans pollution. Bien sûr, on a eu à un moment donné besoin d'aide, de l'aide de l'État et des aides communautaires, des aides européennes aussi.
In un momento storico preciso, abbastanza limitato.
Pendant une période historique très limitée, notre agriculture a vraiment risqué d'être détruite. Et du coup, on a eu besoin d'avoir recours à des aides. Et la région Campagne a pu intervenir, notamment en utilisant les fonds européens, qui ont permis de relancer nos productions et de rassurer aussi l'opinion publique internationale par rapport à la qualité de nos produits. Et un élément important a été aussi, et je tiens à le dire, a été aussi l'introduction d'un certain nombre de lois qui identifient les délits liés à l'environnement, ce qui a été une bataille spécifique de Legambiente, qui a toujours lutté pour que voilà, l'État reconnaisse ce genre de délit dans le code pénal.
Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie, su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figlie e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadaveri in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, resta un attimo soltanto,
Ricardo, où est-ce qu'on est là?
Alors on est dans les campagnes de la province de Caserta, dans une ferme gérée par une coopérative, un réseau de coopératives qui s'appelle NCO, Nuovo Commercio Organizzato. C'est un jeu de mots qui reprend la définition de Camorra, le nom de cette organisation criminelle la plus présente ici dans la région de la campagne, et qui s'appelait justement Nuova Camorra Organizzata. Et donc c'est un jeu de mots NCO avec les mêmes intitulés. Et c'est ici, on a récupéré un terrain confisqué à la Camorra justement, et la coopérative peut bénéficier d'une dizaine d'hectares pour cultiver des produits agricoles selon un modèle d'agriculture sociale, et ensuite revendre les produits avec une initiative qui reprend aussi un jeu de mots qui s'appelle le pacco anticamorra, c'est-à-dire le paquet anticamorra, parce que dans le napolitain, en napolitain, pacco c'est un synonyme d'arnaque, mais ça signifie aussi un paquet. Donc pendant les fêtes, surtout à Noël, Pâques, etc., la coopérative revend des paquets de produits agricoles de cette terre récupérés.
Donc là, pour décrire, on est vraiment au milieu de... comme un petit espace campagnard au milieu de la ville. Tiens, on a vu des poules, des chèvres, des canards. On a vu un peu d'agriculture. Et puis quand même, on aperçoit les habitations au loin qui nous rappellent qu'on est quand même en ville.
La typique architecture non finie de la campagne. La moitié presque, le 40% au moins des habitations construites.
Arrivederci.
Qui ont été construites ici n'ont pas été finies. Donc on voit ces squelettes qui sont apercevables depuis la rue, la route aussi. On les a vus en voiture. À côté des déchets aussi qui sont laissés sur la route.
Sur l'autoroute. Sur toutes les routes, on voit plein de déchets. Déchets du bâtiment, déchets ménagers.
Oui. Buongiorno. Lei Giuliano.
Sì.
Salve, Riccardo Antonucci.
Ciao.
Grazie per
salve.
La tua
buongiorno.
Ciao, buongiorno. Sì, io sono Giuliano Ciano, presidente della cooperativa Un Fiore per la Vita.
Je m'appelle Giuliano Ciano et je suis le président de la coopérative Un Fiore per la Vita, Un Fleur pour la Vie.
On fait un petit tour. Vous nous montrez un petit peu brièvement.
Pour et puis dentro. Questa vabbè, questa è la bottega.
Ah, ici, c'est voilà, justement la partie où on revend les produits des terres de ces coopératives.
Donc on a vu les courgettes, les fleurs de courgettes, toute la production locale. Là, on passe devant le bâtiment principal, tout jaune, avec deux superbes oliviers. Au niveau de la partie agricole, est-ce qu'il est difficile de faire de l'agriculture biologique sur des terrains qui étaient pollués avant cela ou pas?
Si, non, è facilissimo.
Tout au contraire, ce n'est pas difficile de faire de l'agriculture biologique ici.
Infatti, il problema, diciamo, Terra dei Fuochi ha creato per 4-5 anni.
Ce qui s'est passé avec ces scandales de la Terre de Feu, c'est que ça a produit une crise de tout le secteur agricole de la campagne. Parce que justement, une fois le scandale médiatisé, tous nos agriculteurs ont trouvé des grosses barrières élevées sur le marché. Ils ne pouvaient plus vendre, surtout à l'étranger. Et personne n'avait plus confiance dans les produits produits ici. Et donc pendant 5-7 ans, on a eu une crise économique réelle de notre agriculture à cause de ce scandale qui a été médiatisé.
Sono state pochissime invece le aziende che hanno scientificamente, diciamo, e non solo.
Ce qui s'est passé après, c'est qu'on a mis en place des protocoles de contrôle et d'analyse scientifique des nos terres. Mais annexer ces produits, parce que on a à l'état actuel au moins 10 démarches de contrôle et d'analyse des produits agricoles que nous produisons en campagne. C'est la seule région où il y a un tas si élevé de contrôle et d'analyse nécessaire. Figurez-vous, nous avons un QR code sur nos produits qui, une fois scanné, permet d'identifier la particule de la terre où le produit a été produit, d'accéder aux analyses de l'eau qui a été utilisée pour irriguer ce terrain et accéder aussi aux analyses du terrain. Alors, ce qui s'est produit, c'est que la seule manière aujourd'hui de manger sain, c'est d'acheter ce qui vient de la campagne maintenant, à cause de tous ces contrôles. Mais tous ces contrôles ont ralenti un peu le secteur.
Est-ce que dans ce cadre-là, vous bénéficiez d'aide de l'Union européenne, notamment via la PAC, la politique agricole commune?
Cioè, come si fa a contrastare l'inquinamento ambientale? Come si fa a contrastare il problema?
Nous avons créé un forum national, un forum de discussion politique entre les agriculteurs, qui s'appelle le Forum national de l'agriculture sociale. Nous croyons que la réponse au problème de pollution et d'exploitation qui concerne nos terres, la réponse est l'agriculture sociale, parce que le côté social de l'agriculture permet d'intégrer le bien-être et la production agricole et de centrer la production agricole sur la personne. C'est la personne qui devait être au centre des financements et des politiques agricoles communes européennes. Et nous croyons que si on met la personne au centre, nous pouvons répondre à tous ces problèmes qui concernent l'embrigadement, le caporalato, qui concerne la pollution de nos territoires, qui concerne l'exploitation des travailleurs journaliers et l'exploitation des bas prix de l'agriculture.
Un nuovo piano di agricoltura che
la question à se poser sur ce sujet, au sujet de la PAC, c'est quel modèle on veut aller financer. Est-ce que la nouvelle PAC veut continuer de financer le multinational ou veut-elle vraiment tenter de développer un modèle qui aide les projets de développement du territoire, les projets agricoles qui développent le territoire et les agriculteurs, les petites et moyennes entreprises, les PME. C'est ça la question qu'il faut se poser.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. info@rfi.fr.
Il generale di brigata Ciro Lungo, comandante della regione Carabinieri Forestale Campania.
Je m'appelle Ciro Lungo et je suis le général responsable de la cellule forestière des Carabinieri della gendarmerie della regione Campania.
E quindi, diciamo, il business, il lucro che c'è in questo momento è proprio legato...
Pour parler de ce délit en général et du phénomène de trafic illégal des déchets, je dirais que, à la différence du passé, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'enfouissement des déchets sous la terre, mais il s'agit de groupes d'entreprises ou d'entrepreneurs qui cherchent à se défaire de manière illégale des déchets pour épargner de l'argent. Les déchets concernés sont surtout aujourd'hui des déchets à caractère urbain, surtout des plastiques. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a un trafic d'abord de faux documents qui attestent de faux traitements de ces déchets ou qui couvrent des mauvais traitements de ces déchets. Ou bien nous avons aussi trouvé du stockage illégal ou de l'incinération irrégulière. Il faut aussi citer le fait que jusqu'à il y a quelques années, la plupart de ces déchets partaient de l'Italie et étaient envoyés à l'étranger. Je fais référence à la Chine et à l'Inde. Mais notamment le fait que la Chine ait arrêté d'accepter nos déchets irréguliers a déterminé l'arrivée de ce phénomène au sein même de notre territoire. Tant qu'il y a une production industrielle et une production de consommation qui produit des déchets, il y aura toujours des risques liés à un business, lié justement à au profit sur un mauvais traitement des déchets de ces productions.
Grâce à la mobilisation générale des citoyens, des associations, des différents services de la police, de la gendarmerie et de la justice, avec l'introduction des écodélits dans le code pénal, le nombre d'arrestations pour crimes contre l'environnement a explosé en 2017. Ainsi, selon les chiffres de 2018 du ministère de la Justice, il y a eu 177 arrestations pour délits de pollution, 76 enquêtes pour trafic organisé, 992 dénonciations de trafiquants et 4,4 millions de tonnes de déchets saisis. Si l'association environnementale Legambiente se félicite de l'augmentation de ces chiffres, elle rappelle que le combat n'est pas fini et que la corruption demeure le principal ennemi de l'environnement.
On est pas très loin de Pompéi, dans le sud, pas à Naples. C'est la province de Salerno. Et nous sommes sur un fonds qui vient d'être ouvert, qui vient d'être inauguré il y a seulement 10 mois, et qui s'appelle Fondo Agricolo Nicola Nappo. La particularité, c'est que c'est un fonds agricole, un projet d'agriculture sociale complètement géré et supporté par un syndicat, qui est le syndicat le plus grand d'Italie, la CGIL. La Confédération Générale du Travail Italienne. Nous avons avec nous Raffaella Casciello qui travaille sur le projet.
Buongiorno, bonjour.
Buongiorno.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce fonds, de la création de ce fonds, et puis nous parler de l'espace où on est? C'est un espace magnifique.
Il Fondo Agricolo Nicola Nappo è composto da 12 ettari di terreni.
Ce terrain compte 12 hectares qui ont été confisqués à un clan spécifique de Camorra qui a participé aux guerres des Camorra à partir des années 80. C'était le clan Galasso. D'abord, les clans comptaient construire une clinique privée pour rentrer dans le business de la santé illégale de cette région. Grâce à une opposition qu'on a fait politiquement, mais à la mairie aussi, durant les années 80 et 90, ce projet a fut rejeté finalement, et les terrains ensuite ont passé à des formes de location abusive gérées toujours par la mafia.
Le fonds est intitulé Nicola Nappo, qui est un jeune.
Le fonds, nous l'avons intitulé à la mémoire de Nicola Nappo, un jeune homme de 23 ans qui était mécanicien ici et qui a été tué à 23 ans par la Camorra, mais par un échange de personnes. Ça a été une erreur. C'est à sa mémoire que nous avons voulu dédier le projet pour changer de façon symbolique l'intitulation de cette terre qui appartenait d'abord à une famille mafieuse, Galasso, et que maintenant sont dédiées à la mémoire d'un jeune homme de 23 ans.
Grazie. Merci beaucoup.
Grazie a voi.
Bonjour, non, bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, bien.
Vous parlez français un peu?
Non tanto. Un peu, un peu.
Je vous laisse vous présenter.
Je suis Gianluca Torelli, lavoro nel sindacato.
Je m'appelle Gianluca Torelli, je suis syndicaliste depuis 10 ans et je travaille justement dans la récupération des biens confisqués à la Camorra et des luttes à la mafia en général.
Comment est-ce que votre syndicat a été amené à s'intéresser aux biens confisqués à la mafia et à la lutte contre ce qu'est la Camorra ?
Basti pensare che uno dei grandi business
il suffit de penser au fait que le premier business des mafias en milieu agricole, c'est justement celui du caporalato, de l'embrigadement. C'est une manière mafieuse de gérer le travail agricole. Il y a en Italie plus que 500 000 victimes chaque année du caporalato. Et ici, aux alentours, par exemple, de ce territoire, nous allons trouver beaucoup d'activités gérées comme ça, où les droits ne sont jamais respectés, soit-ils les droits des étrangers qui travaillent comme journaliers ou les droits des Italiens aussi. Les gens qui travaillent pour ces entreprises mafieuses vivent dans une condition qui est ressemblable à celle des esclaves. Ce sont des conditions vraiment minables. Elles n'ont pas droit à l'autodétermination et sans aucun contact avec le monde à l'extérieur. Ici, par exemple, ce même terrain, quand il était géré par la mafia, il y avait des journaliers migrants sans papier qui travaillaient et qui vivaient ici. Dans des conditions terribles. Un d'entre eux est même mort, un jeune homme est mort à cause d'un court-circuit qui était causé par les conditions minables où il vivait. Voilà donc pourquoi la lutte à la mafia est en connexion directe avec la lutte pour les droits des travailleurs.
Alors justement, un projet comme celui-ci, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous et qu'est-ce que vous voulez prouver finalement ?
Vogliamo dimostrare che le mafie possono essere sconfitte.
Nous voulons prouver que de battre les mafias c'est possible, mais qu'on ne les bat pas uniquement sur un terrain symbolique. Nous voulons prouver que la légalité, c'est quelque chose de rentable. Le vrai but des mafias, le but ultime des mafias, c'est de faire des profits au fond. C'est pour ça que nous devons lutter pour créer une économie légale qui soit rentable et qui soit plus forte. C'est ça ce que ce terrain et ce projet symbolisent pour nous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. La sera scivolò su di noi all'uscita della scuola in città. Ci prendemmo per mano e ti dissi io ti amo, il mio rifugio. Agromafia et Ecomafia, la révolte des citoyens, c'était un reportage d'Igor Strauss et de Riccardo Antoniucci, réalisé par François Porcheron en partenariat avec l'Union européenne. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure. C'est tout.